journal avec Xavier Demagny.
Bonjour. Antipass malgré tout, quatrième samedi de mobilisation contre l'extension du pass sanitaire. 150 rassemblements prévus en France, plusieurs manifestations à Paris. Nous serons dans l'une d'entre elles dans un instant. Le Covid qui continue de progresser en Outre-mer, situation alarmante, notamment en Guadeloupe. Le taux d'incidence y est 20 fois supérieur au seuil d'alerte. Nous irons aussi en Grèce, incendie aux portes d'Athènes, 2 morts et des dizaines d'hectares partis en fumée. Et puis au Japon, avant dernière journée au JO de Tokyo, 2 médailles de bronze ce matin. Peut-être, on l'espère, 2 en or d'ici ce soir. À suivre aussi la possible arrivée de Messi à Paris, au PSG, c'est du foot. Le journal de bord de Thomas Pesquet, comme chaque semaine. Et puis la météo, 3 départements. Département en vigilance orange, pluie, inondation, Savoie, Haute-Savoie et Isère.
France Inter.
C'est donc le quatrième week-end de mobilisation pour les anti-pass sanitaires à l'avant-veille de son extension. 200 000 personnes la semaine dernière, au moins autant attendues aujourd'hui. Des défilés dans plus de 150 villes en France, dont plusieurs à Paris. Bonjour Mathilde Delimi.
Bonjour Xavier.
Mobilisation morcelée dans la capitale. Vous êtes dans l'un de ces rassemblements?
Oui, l'un de ces 4 parcours, celui qui a été déclaré par des gilets jaunes et qui se chauffe au cri de « Liberté et on va gagner ». Ils sont quelques centaines rassemblés au pont de Neuilly. Parmi eux, Bruno, venu en famille.
Non, je suis pas anti-vax, moi. Tout le monde a le droit de se vacciner. La vaccination, c'est la liberté. Mais les gens qui veulent pas se vacciner, ils ont le droit aussi.
Bruno demande à pouvoir prendre du recul. Il se méfie des effets du vaccin qu'il pense être un instrument de surveillance des individus via une puce. Il ne croit pas non plus que le pass sanitaire aura une fin, elle qui a été décidée au 15 novembre.
C'est l'échelle à la dictature et ça commence par les passes et ça termine avec la puce sous la peau. Il n'y a plus de liberté, c'est sûr que ça ne va pas s'arrêter. Et c'est pas avec les politiques qu'on a que ça va s'arrêter. Ils ne travaillent pas pour nous, les politiques. Ils travaillent pour leurs intérêts et les gros groupes pharmaceutiques et les gros groupes financiers mondiaux.
Danielle, elle a revêtu un gilet jaune, mais juste à cause de la pluie, dit-elle. Elle regrette cependant de ne pas s'être investie plus tôt dans le mouvement.
On est resté spectateur, tout en approuvant. On aurait dû s'investir. Il n'y a pas assez de recul sur les effets secondaires. On est déjà des personnes à risque. On ne va pas se rajouter quelque chose. Donc maintenant, c'est notre droit d'être là pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce gouvernement qui nous manipule et qui nous impose les choses.
Le cortège vient tout juste de partir, direction Châtelet, environ 10 km, mais au nord, éloigné donc de l'Élysée et du Conseil constitutionnel.
Mathilde Dehimi en direct avec Alexandra Bergel à la technique, merci à vous deux. 4 cortèges donc au total à Paris, beaucoup de monde aussi attendu dans le sud du pays, notamment à Toulon, Montpellier, Nice et Marseille. Quoi qu'il en soit, l'extension du pass sanitaire dans de nombreux lieux publics et l'obligation vaccinale pour les soignants vont bien entrer en vigueur lundi, dans 2 jours. Aujourd'hui, près de 55% des Françaises et des Français sont complètement vaccinés. Et pendant que certains défilent, la situation empire par endroits, sur la Côte d'Azur, en Occitanie ou en Corse, tout particulièrement aussi en Outre-mer. Taux d'incidence 20 fois au-dessus du seuil d'alerte en Guadeloupe. Plus de 1000 cas pour 100 000 habitants. Situation dramatique, alerte le maire de Basse-Terre, André Attala, cardiologue de métier.
En temps normal, le CHU de Pointe-à-Pitre accueille 2 à 3 patients en réanimation. Hier, nous avons eu 12 entrées en réanimation en une seule journée. Nous sommes à la limite, effectivement, de la médecine de catastrophe. Nous avons donc 51 lits et prévu de créer 10 lits supplémentaires de façon à pouvoir répondre à la demande. Si cette situation continue à s'aggraver, c'est vrai qu'il nous faudra des renforts, comme ça s'est passé pour la Martinique. Il y a en Martinique un module militaire de réanimation de 20 lits qui a été mis en place. Donc pour l'instant, nous faisons face. La situation est difficile. Il faut faire davantage de la pédagogie. Un chiffre très simple, sur les 300 malades hospitalisés à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, pour Covid grave, il y a à peine 3 personnes qui étaient vaccinées. Donc c'est bien la preuve que le vaccin protège contre les formes graves.
André Attala, maire de Basse-Terre en Guadeloupe, invité de la matinale d'Inter ce matin avec Laetitia Gaillet. La Guadeloupe, où la vaccination ne prend pas, à peine 20% de la population a reçu une première dose et qui vit de nouveau sous un régime de confinement et un couvre-feu. 13h04, les flammes font des ravages cet été en Californie. L'incendie prénommé Dixie en passe d'être l'un des plus importants jamais connus dans l'État américain. Plus proche de nous, en Grèce, le feu continue de gagner du terrain à proximité d'Athènes, la capitale, poussée par les fortes chaleurs et les vents violents. 2 personnes sont mortes et au moins 1500 pompiers sont toujours à pied d'œuvre. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Envoyée spéciale d'Inter en Grèce, où ce sont des hectares et des hectares de forêt qui partent en fumée. C'est un véritable désastre écologique en cours.
Oui, pour vous donner une idée, ce sont 25 000 hectares, c'est énorme, de forêts qui ont brûlé seulement sur l'île d'Eubée, à 2 heures de route environ d'Athènes. La végétation ici est typiquement méditerranéenne, des forêts de pins, pinèdes, sous-bois, extrêmement secs, puisque les fortes chaleurs ont commencé ici plus tôt que d'habitude, dès le mois de juin. Les destructions sont immenses, la flore, la faune, ici sangliers, renards, cerfs, petits mammifères par exemple, et au-delà de la biodiversité, il y a des conséquences directes sur les villes qui vont se retrouver fragilisées. Par exemple, autour d'Athènes, ce qui flambe en ce moment, ce sont des zones vertes, des poumons pour le secteur, une forêt protectrice aussi en cas d'inondation. Ce matin, j'ai rencontré un expert spécialiste des forêts qui travaille pour le gouvernement et il était très clair sur la situation actuelle. Depuis 1989, les gardes forestiers qui étaient jusqu'ici chargés de lutter contre les feux ont été remplacés par des pompiers de ville moins aguerris, plus craintifs aussi face aux feux de forêt, selon ces mots, est en cause aussi la stratégie du gouvernement qui, au lieu de cibler tout de suite le départ de feu, la nature, la forêt, a déployé les effectifs en protection en amont des personnes et des maisons, ce qui est louable sur le papier. Mais le résultat, c'est que le feu progresse violemment et a atteint rapidement ces zones d'habitation qui n'ont d'ailleurs pas pu être protégées.
Julie Pietri avec les moyens techniques d'Éric Audra en Grèce pour Inter. La France se tient aux côtés de la Grèce, durement touchée dix midi Emmanuel Macron. 3 Canadairs et 80 pompiers ont été envoyés sur place. En bref, la ville de Sherbergan, désormais aux mains des talibans, dans le nord de l'Afghanistan, c'est la deuxième capitale provinciale à tomber en moins de 24 heures depuis le début du retrait définitif des forces armées étrangères du pays. Et puis Cuba lâche encore un peu la bride. Le gouvernement donne son feu vert pour la création de PME privées, petites et moyennes entreprises, décision qui intervient près d'un mois après des manifestations inédites qui réclamaient plus de liberté. Avant-dernière journée à Tokyo, les Jeux Olympiques s'achèvent demain. Avant cela, encore quelques chances de médailles pour notre délégation, on va y venir. La France en a déjà décroché 2 en bronze ces dernières heures en cyclisme sur piste d'abord. Bravo à Benjamin Thomas et Donovan Grondin. Et la 30e, c'était en basket en fin de matinée. L'équipe féminine en petite finale du tournoi face aux Serbes, victorieuse 91-76. Sacrée émotion pour Sandrine Gruda, la plus ancienne des joueuses tricolores.
On a sorti un gros match et nous toutes, on a été présentes. On a commencé par défendre fort. C'est très très important de défendre fort parce que ce sont des équipes comme ça qui s'enflamment assez vite. Donc il fallait être présente et on l'a été. Et on n'a jamais fait preuve d'autant de constance, je crois, dans un match de basket. Donc c'est bien qu'on la voulait toute cette médaille. C'est un groupe où il y a des jeunes, des moins jeunes. Il y a une belle synergie, on est copines aussi. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir les deux, cet équilibre entre justement cette bonne ambiance qu'on a en dehors des parquets et de voir qu'on arrive justement à être aussi solidaires, aussi ensemble sur les parquets pour pouvoir aussi gagner.
À l'intérieur, Sandrine Gruda interrogée par Jérôme Cadetto ce matin. Les basketteurs français ont trébuché face aux États-Unis, indétrônables champions olympiques pour la 4e fois. L'équipe emmenée par Nicolas Batum revient avec l'argent. 13h08 ici en France, 20h08 à Tokyo. Bonjour Xavier Monferrand, ou bonsoir du coup.
Bonjour.
Dans moins d'une heure maintenant, l'espoir d'une 8e médaille d'or pour la France et du handball, les tricolores face au Danemark, champion olympique en titre, avec un atout, Nicolas Karabatic, de retour après quelques passages à vide, Xavier.
Et oui, il revient de loin Nicolas Karabatic, hein, à tel point qu'il a bien failli ne pas les disputer ces Jeux Olympiques. La faute à une sale blessure au genou subie en octobre dernier, opération des ligaments croisés. Un tel coup d'arrêt à 37 ans, ça sonnerait le glas de beaucoup de carrières, mais c'est mal connaître Nicolas Karabatic qui ne lâche jamais rien et qui est revenu sur le fil, affûté comme jamais. Il est là et bien là pour porter ses coéquipiers vers le titre olympique, car pas question pour lui, ni pour les autres d'ailleurs, de revivre ce qu'il s'est passé à Rio il y a 5 ans, cette défaite en finale face aux Danois, cette médaille d'argent au goût de rien pour un joueur de son envergure. Si Nicolas Karabatic remporte cet après-midi un 3e titre olympique, eh bien il aurait tout remporté au moins 3 fois, les JO, les mondiaux, les euros. Il a même été élu 3 fois meilleur handballeur du monde. C'est dire si l'or est au bout du chemin, il serait sans aucun doute ni aucune contestation le plus grand handballeur de l'histoire.
Deux Xavier pour le prix d'un dont un à Tokyo avec les équipes de Radio France. Et puis encore une médaille d'or en jeu d'ici une heure. Finale historique en volley masculin. La première pour la France, ce sera face à la délégation russe. Lui est un joueur qui vaut de l'or. Le footballeur Lionel Messi, 6 fois ballon d'or, célèbre attaquant du FC Barcelone, club dont il a annoncé son départ en fin de semaine. Coup de tonnerre, mais Messi coûte trop cher, au moins 70 millions d'euros. Alors serait-il accessible pour le PSG? Le club parisien serait bel et bien en négociation, Bruno Salomon, avec le joueur argentin.
De sources concordantes, oui, le Paris Saint-Germain et Lionel Messi discutent depuis jeudi après-midi. C'est le président Nasser Al-Khelaïfi lui-même qui pilote le dossier des négociations pour cet éventuel recrutement XXL. À l'heure qu'il est, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties, mais le joueur est intéressé par le projet PSG, l'idée de retrouver en plus Neymar et quelques-uns de ses amis argentins comme Di Maria ou Paredes semble sceller son idée de venir au PSG. Club qui a toujours eu des contacts cordiaux avec le clan du joueur, mais qui jusqu'à jeudi a toujours gardé ses distances pour proposer un contrat à celui qui devait prolonger à 34 ans une dernière fois avec le FC Barcelone. Oui, mais voilà, son club de toujours a jeté l'éponge. Il ne peut plus s'aligner le FC Barcelone financièrement, et c'est à ce moment-là que le PSG a foncé pour tenter cette folie d'enrôler le meilleur joueur du monde.
Bruno Salomon de France Bleu Paris, alors que reprend ce week-end la Ligue 1 de foot. Hier, Monaco tenu en échec par Nantes, 1-1. Ce soir, Paris se déplace à 3 et Lyon reçoit Brest. 13h11, on part dans l'espace. 4, 3, 2, 1. Carnet de bord de notre astronaute Thomas Pesquet, comme chaque semaine, à mi-parcours désormais de sa mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Retour ce midi sur l'incident plutôt inédit qui a perturbé l'équipage il y a quelques jours. C'était lors de l'arrimage d'un nouveau module sur l'ISS. Sophie Becherel, la station a fait un véritable salto arrière.
Un looping de 540 degrés sur son axe, soit une pirouette bien plus importante que ce qu'avait annoncé la NASA. Elle avait d'abord parlé de 45 degrés de rotation. Ce module russe MLN, également appelé Nauka, science en russe, arrive avec 15 ans de retard sur l'agenda. Il a connu pas mal de déboires pendant sa construction, la propulsion a même dû être revue. Donc les astronautes s'étaient finalement préparés à plusieurs éventualités, dont une évacuation d'urgence au cas où. Mais l'arrimage s'est bien passé jusqu'à l'épisode final.
Tout allait bien. Et puis au moment, une heure ou deux, je crois, après l'arrimage de docking, une fois qu'on a baissé un peu la garde, en fait, on a eu un appel du centre de contrôle. On s'est pas rendu compte que la station avait basculé, mais ce qui s'est passé, tout bêtement, c'est que quand on a intégré le MLM dans le système de données, que ça a un peu réveillé son ordinateur de bord, on va dire, lui s'est cru en vol autonome. Et du coup, en vol autonome, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'établir son orientation dans l'espace, en gros, comme tout bon véhicule spatial qui se respecte. Et lui, son orientation, c'est à peu près à plat vers la Terre, sauf que quand il est arrimé à la station, il n'est pas à plat vers la Terre, il a au contraire la tête en bas. Donc lui a cherché à se mettre à plat vers la Terre et il a allumé ses moteurs et puis il a commencé à faire tranquillement sa manœuvre. Le petit souci, c'est qu'il a entraîné toute la station avec lui. Là, comme la rotation était très très douce en fait, on a quand même gardé le pointage des antennes, donc on était en dialogue avec le centre de contrôle. On s'est un peu réparti les tâches. Mais au final, ce qui a récupéré le contrôle d'orientation de la station, c'est de brancher les moteurs tout bêtement côté russe. On a juste fait un petit demi-looping en station spatiale. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait, donc c'est plutôt sympa.
Ce module Nauka a vraiment un look des années 80, assez hors norme finalement. En vrai, il a quelle tête?
Oui, c'est vrai. En plus, on s'est habitué, c'est la faute de SpaceX, j'ai envie de dire, on s'est habitué au design moderne, épuré, noir et blanc à la SpaceX, où tout est rond, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse, il ne faut pas qu'il y ait de velcro, parce que c'est pas fait pour que ça soit vraiment très très utilisable. C'est aussi fait un petit peu pour que ça soit joli. Et là, chez les Russes, c'est tout le contraire. C'est pas fait du tout pour que ça soit joli, mais c'est fait pour que ça soit pratique. Donc effectivement, c'est très carré, il y a des grandes armatures en métal, un peu des moquettes au mur. Ça vous est sourire, même avec les collègues russes, on se disait, c'est quand même le module, le dernier arrivé sur la station, et puis on dirait qu'en fait, c'est le premier arrivé et qu'il était là depuis un petit moment, quoi. Mais c'est pas grave, du moment que ça marche bien, c'est pas fait pour être joli.
Vous avez cette semaine inspecté le tapis roulant de la station avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Mais pourquoi un casque de réalité virtuelle alors qu'il s'agit de faire de la maintenance?
La NASA, dans ce cas-là, regarde l'utilisation de la réalité virtuelle pour aider les astronautes à bord. À bord de la station, on est expert de rien, les astronautes, parce qu'il y a vraiment tellement de choses. Tout est hyper spécifique, tout est hyper technologique. Donc c'est vraiment au sein du centre de contrôle que l'expertise réside. Nous, on a un petit vernis de un peu tout, on est capable de se débrouiller un peu. Mais on travaille à base de procédures, on ne connaît pas vraiment le détail des systèmes. Et c'est les gens du centre de contrôle qui nous guident en cas de problème, qui nous expliquent, etc. L'idée de ce casque de réalité virtuelle, c'est de s'affranchir un petit peu de ça. Donc on teste la technologie. Le tapis roulant, c'est un exemple qui est assez pratique, parce qu'il est assez générique. L'inspection maintenance. Et en fait, ce qu'on voit, c'est on a l'image des systèmes qu'on est en train d'ausculter, on va dire, et superposé, on a vraiment un modèle 3D qui recouvre ce qu'on est en train de voir. C'est assez impressionnant, en fait. Hein. C'est un peu comme dans un film de science-fiction. On regarde, je sais pas, un ressort. On a le ressort qui se dessine en trois dimensions, en couleur jaune fluo, pour bien qu'on l'identifie. On a des flèches qui nous montrent par où regarder. Quand on a, par exemple, il faut donner un couple, ben on a une main qui surgit, qui attrape l'élément qui lui donne un couple, qui le fait tourner. Donc, pour le coup, sur cette inspection, ça a vraiment simplifié la vie. Plutôt que lire des mots compliqués de ce qu'il faut faire, avoir cette main qui apparaît, hop, qui montre exactement là où il faut appuyer, ce qu'il faut tourner, dans quel sens, la bobinette, la chevillette, etc. C'était précieux.
Le carnet de bord de Thomas Pesquet, retrouvé sur franceinter.fr chaque semaine. Pas en route pour l'espace, mais peut-être pour les vacances. Si vous nous écoutez en voiture, près de 1000 km de bouchons cumulés en fin de matinée tout à l'heure. Journée classée noire en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment pour les départs. Pas toujours facile de rester zen d'ailleurs quand on passe plusieurs heures au volant.
Je klaxonne les gens qui restent sur leur gauche, sur l'autoroute ou au milieu. Très énervant. Et je sais que c'est pas bien de klaxonner, de mettre du stress, mais au bout d'un moment, on craque.
Avec le régulateur de vitesse, je laisse beaucoup moins d'espace dans les voitures. Et ça, c'est risqué.
Je respecte trop. Du coup, les gens, ils respectent pas. Ça m'énerve un petit peu. Et du coup,
je peux être un peu vulgaire.
Est-ce que vous avez une insulte favorite en voiture?
Pourquoi vous posez cette question?
Parce que tout le monde en a une.
Oui, tout le monde en a une. Merde.
C'est haut, plus loin, ARD.
Tu vénères, quoi. Ça m'énerve. Il roule à deux à l'heure, oui. C'est dangereux. Vous voyez, parce qu'on n'est pas à 50 sur l'autoroute, quoi. Enfin,
je suis outrée par les autres, alors que moi aussi, je sais que je fais des choses pas bien, mais comme ça.
Allez, restons courtois. Des automobilistes croisés sur une aire près de Beaune par Adrien Beria de France Bleu Bourgogne. Soyez prudents sur la route.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Il ne fait pas très beau cet après-midi, Jean-Pierre Rameau.
Vous allez retrouver cet après-midi un temps gris et pluvieux des Bouches-du-Rhône au département du Gard, de la région Rhône-Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté et jusque vers l'Alsace. Les pluies associées seront parfois fortes avec en prime de la grêle, en particulier entre l'Isère et les Deux-Savoie. D'ailleurs, ces trois départements sont en vigilance orange pluie inondation. On attend des cumuls de pluie importants, 20 à 40 mm en moyenne et jusqu'à 80 mm localement. Dans les autres régions, prévoyez un ciel de traîne alternant les courtes éclaircies et les passages nuageux porteurs d'averses. Ces averses prendront localement un caractère orageux entre la Normandie et l'Île-de-France et jusque vers les frontières belges. Prévoyez d'assez belles éclaircies tout de même des côtes vendéennes aux côtes landaises, en passant par la côte charentaise, mais aussi autour du golfe du Lion et du côté des Alpes-Maritimes. En revanche, le soleil va briller généreusement et sans partage en Corse. Les températures maximales évolueront généralement entre 18 et 23 degrés, comptez 26 à 29 près de la Grande Bleue, et jusqu'à 30 degrés à Bastia, voire 32 à Ajaccio.
Jean-Pierre Rameau, Météo France, dans un instant, une histoire d'espion sur Inter.